Lisez le Coran et vous allez voir que le Coran ne cesse d'inviter les humains, et les musulmans en particulier, à la réflexion, à penser, à réfléchir, à ne pas être naïf. Vous entendez ? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, le croyant est quelqu'un d'intelligent et d'éveillé. Kayis, intelligent, éveillé, c'est pas un naïf, c'est pas quelqu'un d'endormi. C'est-à-dire, il a assez d'intelligence pour prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, pour pouvoir prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est la décision qui est fondée sur quoi ? Sur les critères suivants. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a la justice et l'injustice. Et nous, nous devons choisir le bon camp. Celui du bien, celui de la justice, celui de la bonté, etc., etc. Et c'est lorsqu'on n'utilise pas sa raison et qu'on laisse les sentiments prendre le dessus qu'on glisse vers quoi ? Vers les déviances que la religion condamne. Donc Dieu ne cesse dans le Coran de nous inviter à quoi ? À la réflexion, à la contemplation, à l'étude, etc., etc. Le terme « aql » est cité 49 fois dans le Coran. « Aql » signifie « raison ». Et le sens étymologique du terme signifie « attacher », »,« faire un nœud ». Comme si la raison était quoi ? Était une corde qui nous attache pour nous retenir, pour nous empêcher de glisser vers les abysses du mal. C'est un frein à main, la raison. Hein ? Un frein, ABS. Pourquoi ? Pour ne pas rentrer dans un mur. Le mur de quoi ? Le mur de la désobéissance à Dieu, le mur du mal et de l'injustice. L'imam al-Bukhari rapporte un hadith extraordinaire, magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit un petit détachement des hommes pour aller accomplir une mission. Et bien entendu, il faut un chef, car s'il n'y a pas de chef, c'est le désordre, c'est l'anarchie. Si on n'a pas un bon chef, ça sera Shaitan notre chef. Shaitan est synonyme de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais, et rien de pire si ce n'est que l'anarchie et la zizanie. Donc il désigne un des leurs pour diriger ce petit détachement militaire. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, et il leur rappelle, des principes fondamentaux dans notre religion qui sont l'obéissance au chef. Hein, si on a un chef, c'est qu'on doit lui obéir. Si on ne lui obéit pas, c'est plus un chef. Donc, il leur dit, celui qui obéit au chef, au responsable, obéit au prophète. Celui qui obéit au prophète, obéit à Dieu. Celui qui désobéit à son responsable, à son chef, désobéit au prophète. Celui qui désobéit au prophète, désobéit à Dieu. Et il y a un verset du Coran qui dit, « وَأَطِعُوا اللَّهَ » Obéissez à Dieu. « وَأَطِعُوا الرَّسُولُ » Obéissez au prophète. « وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » Et ceux qui vous dirigent, ceux qui sont responsables. Vous leur devez, eux aussi, obéissance pour que les choses fonctionnent et marchent. Vous êtes bien d'accord ? Très bien. Ils s'en vont, ils accomplissent leur mission et sur le retour, ils se prennent la tête. Dispute entre le chef et ses soldats. Ils se prennent la tête. Ça, malentendu, prise de tête. Il est emporté par la colère et là, il leur donne un ordre étrange. Il leur dit de ramasser du bois. Donc, ils obéissent. Jusqu'à présent, ça va encore. Et lorsqu'ils ramassent bon tas de bois suffisant, il sort son briquet, il allume le bûcher et il leur dit « Jetez-vous dans le feu. Je vous ai donné un ordre, je suis votre chef, j'ai été désigné par le prophète, vous vous jetez dans le feu à l'instant. Haya, vous m'obéissez. » Il veut les punir, il veut se venger. Donc ils sont devant un dilemme. L'obéissance au chef, c'est un pilier de la religion, vous êtes bien d'accord. C'est le bon sens, c'est la morale. Mais en même temps, un ordre qui vient d'un chef qui est illogique. On s'est pris la tête, je veux bien, mais est-ce qu'on mérite une punition aussi grave, nous jeter dans le feu ? Le hadith dit que le plus jeune d'entre eux, ils étaient un groupe, il y avait des personnes âgées, le plus jeune d'entre eux prit la parole, il lui dit... nous nous sommes convertis à l'islam pour fuir les flammes de l'enfer, et tu veux nous envoyer en enfer déjà sur terre, par Dieu, on ne t'obéira pas. C'est la rébellion. Et hors de question qu'on te suive. Il rentre à Médine, il fait son rapport, et il se plaint de ses soldats qui n'ont pas voulu lui obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers les hommes qui ont désobéi, la mutinerie, et vous savez ce qu'il leur dit ? Si vous lui aviez obéi, vous seriez en enfer jusqu'à la fin des temps. Ne savez-vous pas que l'obéissance est conditionnée par le bon sens ? L'obéissance est conditionnée par le bon sens. Et le prophète va quoi ? Va condamner ce chef qui a demandé à ces hommes quelque chose qui est contraire au bon sens, à la logique, qui est contraire aux principes fondamentaux de l'islam. Il a voulu utiliser la religion pour se venger et les punir en les mettant dans le feu, et eux, ils ont remis en question son utilisation de la religion. Certes, tu es notre chef. Dieu et son prophète nous demandent d'obéir au chef. Mais Dieu et son prophète ne nous demandent pas de faire n'importe quoi non plus. Ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont fait marcher leur logique, leur intelligence. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Ils ont refusé d'obéir à un ordre qui n'a pas de sens, qui est dangereux, qui est mauvais. Et c'est ce qui les a sauvés. S'ils avaient obéi aveuglément à leur chef, ils seraient en enfer jusqu'à la fin des temps. Vous êtes bien d'accord que cette religion, c'est la religion de la logique, du bon sens. Elle est rationnelle, oui ou non ? Elle est faite de manière à ce qu'elle n'entre pas en conflit et en contradiction avec la nature de l'être humain. Parce que Dieu qui nous a créés, c'est bien lui qui nous a envoyé sa parole. Est-ce que la volonté de Dieu, sa religion, ses ordres, ses commandements, ses interdictions, est-ce qu'elles vont aller dans le sens contraire de l'intérêt de l'être humain ? C'est pas possible. Vous entendez ? Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui est contre notre intérêt. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que Dieu veut ? Est-ce qu'il veut notre bonheur ou notre malheur ? Il veut notre bonheur. Ainsi, tout ce que Dieu nous demande de faire, ça va dans le sens de ce qui est bon et utile pour l'être humain. Ça ne va pas dans le sens contraire. Dieu ne veut pas nous faire souffrir. Au contraire, il veut alléger nos souffrances et les faire disparaître. Dieu ne veut pas nous faire porter un fardeau. Il veut alléger ce que l'on porte déjà sur notre dos, cette responsabilité. Donc l'islam, c'est la religion de quoi ? C'est la religion de la nature, du bon sens, de la logique, de la raison. Le hadith, il est là pour le prouver. Il y a un texte qui dit, faut obéir à qui ? Faut obéir au chef. Et en même temps, on a une intelligence qui nous dit, ok, je t'obéis jusqu'à une certaine mesure. C'est quoi cette mesure ? Tu m'ordonnes le bien, j'obéis, tu m'ordonnes le mal, je désobéis. Vous allez me dire, ouais, mais qui définit le bien et le mal ? Ben, sachez que le bien et le mal, sa définition, elle est ancrée dans la nature humaine. Allah nous a créés avec une fitra, une nature humaine. C'est programmé, c'est dans le disque dur, c'est dans les gènes, c'est dans notre machine extraordinaire qui s'appelle la raison. Quand quelque chose est mauvais, la raison le repousse et le rejette. Vous savez, quand quelqu'un crie trop fort, vos oreilles le sentent et il y a un signal. Hein? Vous éloignez du bruit, vous fermez les oreilles parce que le bruit vous agresse, vous faites taire la personne. Même chose pour les yeux. Quelque chose d'horrible, vous fermez vos yeux, vous détournez. Parce que Dieu a créé notre corps avec des réflexes. Ces réflexes ont pour objectif de nous protéger de tout ce qui pourrait nous faire du mal à notre corps. Ben, il en est de même pour la raison. Dieu a mis des réflexes dans notre corps pour nous protéger du danger, et Dieu nous a donné une raison, et il a programmé dedans la notion du bien et du mal pour nous protéger contre le mal et nous inciter à faire le bien. C'est ce qu'on appelle le ma'ruf, et c'est ce que le Coran appelle le ma'ruf et le munkar. Le ma'ruf, ça veut dire ce qui est communément reconnu comme étant bon par la majorité des êtres humains qui ont encore une nature saine. Et le Monkar, c'est ce qui est reconnu. Vous pouvez faire des élections, vous allez voir, il aura la majorité des voix. C'est ce qui est reconnu comme étant mauvais par la majorité des gens. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, ni de l'Azhar, pour dire que se jeter dans le feu, c'est mauvais. Tout le monde vous dira, c'est mauvais, sauf 2%, 3% de malades qui ont un disque dur inversé. Ben c'est ça que l'islam enseigne, le bon sens, la logique, la fitra. On doit, normalement, sur certaines questions, ne pas se poser de questions. Tellement ça coule de soi, tellement c'est logique et tellement c'est utile et c'est bon et c'est nécessaire. La preuve, regardez. Il y a un compagnon qui s'appelle Hiram ibn Milhan. Bon musulman qu'il est, il va à la mosquée le matin pour faire sa prière de Subh. L'imam Mu'adh ibn Jabal décide ce jour-là de réciter une sourate qui est longue. Hiram prie derrière lui, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il commence à se poser des questions. Il va arrêter quand ? J'ai du boulot, j'ai pas le temps, j'ai mon chameau qui m'attend à l'extérieur, je dois aller arroser mes palmiers, le soleil va se lever. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Hiram ? Il a arrêté la prière. Il est parti, il a prié dans son coin, il s'est barré pour aller au boulot. On l'a balancé, hein. Mu'adh va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire un rapport sur Hiram ibn Milhan. Manque de peau, Hiram finit son travail, lui aussi va voir le prophète pour se plaindre de Hiram ibn Milhan. Pourquoi t'as quitté la prière ? Lui dit, prophète, moi j'ai rendez-vous, moi j'ai du boulot. Lui, cet imam là, il n'y a rien à faire, il a tout le temps pour prier toute la matinée. Et le prophète va se diriger vers qui ? Vers Mu'adh ibn Jabal, pour lui dire, ya Mu'adh, tu es un fatan. C'est ce que ça veut dire, fatan. C'est-à-dire, tu mets les gens dans la difficulté. Tu mets les gens devant des choix qui sont difficiles. On doit faire la prière, c'est une vérité. On doit la faire être concentré. Mais toi, tu me perturbes. Ya Mu'adh, tu es un perturbateur. Ouais. C'est-à-dire, regardez comment la religion mal comprise, mal appliquée, peut devenir source de perturbation pour le croyant sincère qui cherche à se rapprocher de Dieu. Vous avez vu ? Comment la religion, quand elle est pensée à titre individuel, égoïste, elle peut devenir une calamité pour la majorité et le reste des croyants. Ya Mu'adh, tu es un perturbateur. Il va lui dire trois fois la même chose. Ya Mu'adh, quand tu pries, tu dois tenir compte des gens qui sont derrière. Il y a des malades, il y a des gens qui ont du boulot, il y a des gens, etc., etc. Tu n'es pas la référence. Tu n'es pas le centre du monde. Ya Mu'adh, tu dois pratiquer cette religion en tenant compte de ses fondements et de ses principes immuables. L'islam est une religion de bon sens, une religion de la souplesse, de la facilité. C'est une religion qui est venue pour permettre à l'être humain d'être épanoui et non pas vivre dans la difficulté et dans la galère. C'est le bon sens, ça coule de soi. Il y a des dizaines de hadiths et d'exemples comme ça dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, c'est la religion du bon sens, c'est la religion de la raison, c'est la religion qui a pour objectif non pas de déstabiliser, de perturber l'être humain, mais plutôt de le stabiliser et de lui permettre de s'épanouir au quotidien pour pouvoir vivre le bonheur sur terre et le bonheur ultime dans l'au-delà. Et on n'a pas besoin de réfléchir et de penser par procuration. Dieu nous a tous donné une raison et un bon sens, et on doit les utiliser au quotidien. Sinon, nous allons devenir quoi ? Ben, nous allons devenir des écervelés, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, et c'est grave quand quelqu'un ne réfléchit pas. Et le pire, une des conséquences, c'est que d'autres vont réfléchir à notre place. Et s'ils réfléchissent à notre place, c'est dangereux, parce que si vous tombez sur quelqu'un de bon qui veut votre bien, ça passe. Mais si vous tombez sur un imbécile malhonnête qui veut votre mal, ça casse. Les gourous, ça existe. Les gens malhonnêtes, ça existe. C'est pour cela, le musulman et les êtres humains, toutes tendances confondues, ne doivent jamais arrêter de penser et de réfléchir. Ils doivent toujours avoir un regard critique sur tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, pour pouvoir prendre la bonne décision et ne pas tomber dans des égarements et des erreurs. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Afala ta'qilun, n'allez-vous pas raisonner, n'allez-vous pas réfléchir. Et c'est puissant. Pourquoi c'est beau, c'est puissant? Parce que regardez, jusqu'où va notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il passe devant des compagnons qui sont en train de travailler dans leur champ, un verger, ils ont des palmiers. Et ils étaient en train de polliniser. Vous savez, vous avez des palmiers mâles, femelles. Il faut que la fécondation se fasse pour que justement la récolte soit bonne. Le prophète, les voyant travailler, le prophète ne connaît pas l'agriculture, la culture des dattes. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, prophète, on est en train de polliniser les arbres. Il dit, mais ça sert à rien. Et ils ont pris à la lettre et au mot ce qu'il a dit. 9 mois plus tard, la récolte est nulle. Les dattes sont nulles. Et ils sont venus se plaindre en disant, prophète, la récolte est nulle. Il dit, bah, je suis pour rien. Il dit, si, tu y es pour quelque chose. Tu nous as fait la remarque en nous disant que ça servait à rien. Et cette année, ça n'a pas donné de résultat. Ah bon? Bah écoutez, vous savez, la remarque que je vous ai faite, ce n'est pas une remarque que j'ai faite en tant que prophète. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, ce n'est pas une parole, on dirait d'évangile, c'est ça. Allez, c'est pas une parole sacrée, c'est pas une remarque sacrée, c'était pas un ordre, c'était pas de la religion. Vous entendez? J'ai porté un avis comme ça, en tant qu'être humain, sur quelque chose de la vie d'ici-bas, bah, je sais pas, mais, oui, ça sert à rien. C'est vous qui vous êtes trompé, qui n'avez pas fait la différence entre mon statut de prophète, quand je parle au nom de Dieu, et là, ce que je dis, c'est indiscutable, c'est véridique, c'est apprendre pour argent comptant. Mais quand je parle des choses de ce bas monde, vous entendez? Là, c'est plus le prophète qui parle, c'est l'humain. Alors, vous êtes plus connaisseur que moi dans le domaine de quoi? De la vie d'ici-bas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Vous êtes plus expert que moi en électricité, vous êtes plus expert que moi en maçonnerie, vous êtes plus expert que moi en mathématiques ou en biologie. C'est pas mon domaine. Regardez comment cette religion renvoie la responsabilité à qui? À celui qui sait, à celui qui connaît, à celui qui est expert dans son domaine. C'est pas du bon sens, ça. C'est pas de l'intelligence pure. C'est comme ça qu'il faut comprendre la religion, vous entendez? Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il ne faut pas arrêter de penser, de réfléchir, parce qu'on va vers un mur. Et nous allons commettre des choses qui sont du domaine d'un crime contre la communauté, vous entendez? Ou de non-assistance à communauté en danger. Regardez ce qui se passe en ce moment. Vous ne trouvez pas que notre pays va mal? Est-ce que vous ne trouvez pas que nos hommes politiques se sont rabaissés plus bas que terre? Vous rendez compte? Ils n'ont rien à dire avant le premier tour et entre le deuxième tour, si ce n'est la viande halal, à nouveau, deuxième épisode. Les 2 repas à la cantine, c'est ça? Et la cerise sur le gâteau, Tariq Ramadan qui a appelé à voter pour Hollande, mensonge éhonté. Regardez jusqu'où vont nos hommes politiques. C'est-à-dire, ils mentent et ils savent qu'ils mentent et ils se permettent de mentir devant 60 millions de personnes. Non, ils se permettent de mentir devant 10 millions de citoyens français de confession musulmane qui en est en train de quoi? D'insulter. Et ces musulmans restent les bras croisés, ne bougent pas, ne disent rien, ils ne font rien. C'est ça qui fait mal. À la rigueur que l'autre mente, c'est normal. À la rigueur que l'autre essaie de nous utiliser comme tremplin pour avoir une place. Parce que quand même, elle coûte cher cette place. C'est pas la place d'un imam. Hadi, elle vaut rien du tout, Hadi. C'est que des problèmes. Hein. La bonne place, c'est l'autre, là. C'est les 17 000 euros par mois, net. Je vous parle pas des avantages à côté. Eh bien, cette place-là, elle mérite tous les sacrifices possibles et inimaginables. Le problème, c'est que nous acceptons d'être les sacrifiés dans l'histoire. Que lui ou un autre se permette de faire et de dire ce qu'ils font et ce qu'ils disent, mathématiquement, ça s'explique. Entre le chômage et 20 000 euros par mois, il faut vraiment être un ange pour ne pas tomber. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que nous acceptons d'être des moutons, des brebis qu'on emmène à l'abattoir et qu'on égorge? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Vous savez pourquoi? Il y a plein de raisons. L'une des raisons essentielles, c'est l'égoïsme. Chacun dit « c'est pas mon problème » ou « je peux rien faire tout seul ». Il y a une deuxième raison, c'est qu'on ne réfléchit pas et on ne veut pas réfléchir. La solution, elle est toute bête, elle est toute simple. Nos hommes politiques ne comprennent qu'un langage. Vous savez lequel? Le langage des urnes. Voilà. On pèse. Électoralement parlant, ils nous respectent. Voire même, ils font le pas vers nous pour dialoguer avec nous, pour trouver un terrain d'entente. Ça s'appelle du business. Je te donne, tu me donnes. Pour pouvoir justement atteindre leur objectif qui est la place. Et c'est logique et c'est normal. C'est humain. Chacun cherche son intérêt. Le problème, il est chez nous. On n'a pas encore compris ce langage-là. Pourquoi est-ce que les musulmans, quand tu leur dis « voter », ils te disent « ça ne sert à rien ». Qui t'a dit? Toi, tu dis que ça sert à rien. Demande à ton ennemi, va te dire si ça sert ou si ça ne sert pas. Il est le mieux placé pour savoir si ça sert. Ah ben, je suis désolé. Votre ennemi, vous savez ce qu'il dit? Il dit « je peux vous insulter matin, midi et soir, vous n'avez aucun moyen de me rendre l'appareil. Vous ne pouvez rien me faire ». Parce que la seule chose que vous puissiez me faire, c'est de voter contre moi pour que je perde ma place. Et ça, vous ne le faites pas. Parce que vous n'avez rien dans le cerveau. C'est pas moi qui dis ça, attention. Moi, je vous respecte, vous réfléchissez, vous êtes intelligent. C'est lui qui dit ça. C'est les hommes politiques qui disent ça. Mais il y a un autre problème. C'est qu'il y a certains qui disent c'est haram de voter. Et ils sortent des arguments. Mais des arguments qui font rire. Vous entendez? Non, ça fait pleurer, ça fait pas rire. Et le pire dans tout ça, parce que je ne vais pas à nouveau reparler du pourquoi, l'intérêt, l'obligation de voter, je ne vais pas en parler, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Mais moi, ce qui me fait mal, vous savez, c'est quoi? C'est que maintenant, certains disent « oh, on peut voter ». Hier, ils disaient « c'est haram de voter ». Maintenant, ils ont changé d'avis. Maintenant, on peut voter. Vous savez pourquoi on peut voter? Parce qu'il y a un intérêt. Très bien. Apparemment, c'est ce qu'on disait avant. Ok? On continue toujours à le dire. Mais le problème, il n'est pas d'avoir découvert 20 ans après qu'il y a un intérêt dans le fait de voter. Parce que bon, il n'est jamais trop tard pour changer, non? C'est bien. Ouais, après 20 ans, ouais, t'as un peu de retard quand même. Ouais, 20 ans, on a perdu 20 ans, hein, d'accord? À cause de ton discours à 2 centimes, c'est haram de voter. Maintenant, tu dis que c'est bien de voter, il y a un intérêt, il faut voter. Très bien, c'est pas grave, le passé est passé. Non, c'est très grave. Vous savez pourquoi c'est très grave? Non, pas parce que t'as découvert après 20 ans que c'était bien de voter, que c'était nécessaire et que c'était obligatoire. Le problème, il n'est pas là. Vous savez où il est? C'est que le mec, il a découvert que c'est bien de voter, non pas parce qu'il a réfléchi, non pas parce qu'il a pensé, c'est parce que quelqu'un lui a dit que c'était bien de voter. C'est-à-dire, il a pensé par procuration. C'est-à-dire, on est toujours dans la même situation. Vous entendez? On est toujours quelqu'un qui nous dit « jette-toi dans le feu », on se jette dans le feu. Pourquoi? Parce que il a un turban, il a une barbe et il a une fourquilla. Il a un look de musulman, donc il nous dit blanc, blanc, noir, noir. On n'a aucun recul intellectuel. On n'est pas capable de dire, attends, ce que tu me demandes là, ça n'a pas de sens, c'est stupide. Moi, je connais très bien et je connais les hommes politiques. Si on vote pour eux, ben, ils nous respectent et ils nous donnent ce qu'on veut. Et si on vote pas et on les calcule pas, ah ben, ils nous mangent, ils nous massacrent aux 20h tous les soirs. Donc, la logique et le bon sens veulent que je vote, ne serait-ce que pour museler, faire taire ceux qui vomissent sur moi. Ça demande pas bac plus 15, bon sang. Ça demande un peu d'honnêteté intellectuelle, un peu de bon sens. Laissez parler votre nature, votre bon sens. Laissez votre cerveau libre. Ne l'emprisonnez pas. Ne le remettez pas à quelqu'un pour qu'il mette dedans ce qu'il veut. Vous savez lire, vous savez écrire, vous avez des oreilles, vous avez un cerveau, faites-le marcher. Sinon, On est en danger de mort et on est en train de tuer notre communauté. On l'a déjà tuée en partie. Regardez. On pensait qu'ils allaient nous foutre la paix pendant ces élections présidentielles et législatives et on s'est jamais fait autant insulter, agresser, humilier si ce n'est qu'en 2012. Pourquoi ? Parce qu'ils le savent, parce qu'ils ont les statistiques. Ils ont les émargements, ils calculent, ils ont pas voté, ils sont pas venus voter, allez-y. C'est un moyen d'attiser la haine et la peur et de vous faire des voix. Ya ibad Allah, ô musulmans, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard parce que c'est grave. Hier, on traitait le Front National de fasciste, le Front National de anti-républicain. Aujourd'hui, oh non, le Front National, il est mignon, il est gentil. Le Front National, il a il pose des vraies questions, etc., etc. La question que pose le Front National, vous savez, c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est que la France? Ah bah écoutez, la France, vous savez, c'est quoi? C'est la France aux Français. Et qui décide de ce qu'est un Français? Bah c'est le Front National. Et je suis désolé, vous ne faites pas partie de ces gens-là pour le Front National. Donc choisissez votre manière, la façon dont vous voulez mourir. Voilà, c'est le choix qu'on vous laisse. Vous voulez finir comment? Parce que c'est ce qui nous attend demain. Vous entendez? La mort politique, elle existe. La mort psychologique, on y est presque. Il reste la mort physique. Ça va peut-être arriver. L'histoire est là pour le prouver. Faites peur aux gens. Les gens sont capables de tirer sur tout ce qui bouge parce qu'ils ont peur. Alors bougez-vous, Allah ybarak fikoum, pour que la France reste la France de ceux qui sont morts en 1789 et les années suivantes, pour que la France soit le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la tolérance, de la générosité. Sinon, on ne sait pas. On est un petit épisode en 39-45. On peut revenir cet épisode. Série 1, série 2. On ne sait pas. Allahu alam. Allez aux urnes, Allah ybarak fikoum, en nombre. Exprimez-vous. J'appelle pas à voter pour un tel ou un tel. Sinon... on va être la 71e mosquée, c'est ça? Parce qu'il y en a 70 qui ont appelé à voter. Donc, je le dis haut et fort, je n'appelle pas à voter pour un candidat ou pour un autre parce que je dois être neutre, vous entendez? C'est du civisme qu'on fait ici et c'est le travail d'un pompier. On essaie d'éteindre le feu. Parce qu'il y a un feu qui est allumé, hein. Attention. Hein. Il y a un feu qui est allumé qui est terrible, qui peut consumer tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Donc on veut vivre en paix avec tout le monde. Et pour vivre en paix, il faut que chacun assume ses devoirs avant de demander et de réclamer ses droits. Ceci étant fini, ceci étant dit, en conclusion, demain, inshallah, à la mosquée des Kodaya, une conférence du professeur Rachid Haddash, d'accord, à 20h. Le lycée Averroès, que vous connaissez tous, lycée privé musulman à Lille, a acheté un nouveau bâtiment et alhamdoulilah, en septembre, il y aura le collège. Donc après lycée, maintenant, ils sont passés au stade du collège. Le bâtiment, il leur a coûté 1,5 million d'euros, vous entendez? Et ils sont obligés de faire des travaux là, maintenant, là, aujourd'hui, hier, avant-hier, pour pouvoir justement ouvrir les classes de collège et le lycée pour déménager. Donc ils ont besoin d'urgence de quelques centaines de milliers d'euros pour que les travaux soient faits en urgence pour pouvoir lancer le collège en septembre 2012. Donc ils sont parmi nous aujourd'hui pour faire une collecte. Allah ybarak fikoum, c'est un des chantiers fondamentaux pour l'avenir de notre communauté. Il y a le politique, il y a le spirituel, il y a l'intellectuel et il y a... l'éducation. Et j'ai même envie de vous dire que l'éducation, c'est la priorité des priorités. Vous entendez? Si on arrive à mettre nos enfants dans des écoles privées, que l'on fait, on suit le gosse de la crèche jusque bac plus 5, école maths sup, maths spé, hippocagne et ingénieur, ah bah, croyez-moi, de ce complexe scolaire vont sortir des garçons et des filles musulmans, intelligents, qui ont une morale, qui ont une pratique et qui ont le sens du civisme. Et vous verrez que notre communauté, inshallah, sera une lumière pour le reste de la communauté française. Parce qu'en vérité, un bon musulman n'est qu'un bon citoyen. Donc Allah ybarak fikoum, vous êtes tous appelés à faire preuve de générosité juste après la prière. On a l'appareil pour la carte bleue, pour ceux qui n'ont plus de liquide. Les chèques sont acceptés, même les œufs et les poules, si vous en avez. Ils sont les bienvenus. Le lycée a besoin des centimes. Vous entendez? Les pièces jaunes peuvent se transformer en millions par la suite. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.